Je vous invite à lire les versets 1 à 10 ensemble. Jésus, après être entré dans Jéricho, traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Alors, en bon français, c'était le petit chef de la mafia de la place qui, on va voir qu'est-ce que c'est un collecteur d'impôts. C'est le petit chef de la mafia de la place qui ramassait de l'argent pour les Romains, mais qui en mettait une grosse partie dans ses poches. Et il y avait des hommes qui travaillaient pour lui. Il était le chef des collecteurs d'impôts. C'était le caïd de la place. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était petit de taille, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Écoutez, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, c'est-à-dire ce que j'ai volé. Je vais le donner aux pauvres. Je vais leur donner aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme est un descendant d'Abraham. » Abraham, qui est le père de tous les croyants, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si j'avais un titre à donner à ce sermon, un autre titre à donner à ce sermon, ce serait ce Jésus si différent de nous. Il est remarquable de voir l'excuse que notre Seigneur a utilisée pour être l'invité d'un pécheur qu'il voulait sauver. Le Seigneur Jésus est si différent de nous. Lui qui était sans péché, lui qui était Dieu, eh bien, il s'est fait homme dans le but de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit ici au verset 10 que nous avons lu. Le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne pourrais pas imaginer ni même concevoir l'apôtre Jean, Simon-Pierre ou Paul de Tarse faire référence à une supériorité quelconque en se faisant appeler fils de l'homme. Si cela avait été le cas, cela aurait été tout à fait inacceptable et inapproprié. Pourtant, lorsque le Seigneur Jésus fait référence à lui-même en tant que fils de l'homme, il souligne ici d'où il vient. C'est Dieu lui-même qui vient habiter parmi nous. Lui qui était si riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. De plus, le verset 10 identifie le Seigneur à Jésus en montrant qu'il est véritablement devenu un homme parmi nous, comme nous, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si jamais vous alliez au Japon, une des choses les plus étranges que vous allez trouver, c'est que les images de notre Seigneur Jésus sont représentées par un Japonais. Si vous regardez les cartes de Noël, la scène de Noël sera une scène japonaise. Et le petit garçon représentant Jésus sera un petit garçon japonais. Lorsque vous voyez cela pour la première fois, ça vous surprend parce que vous n'avez jamais pensé que Jésus pouvait ressembler à un Japonais. Pourtant, c'est une belle illustration du génie même du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que dans chaque langue, et dans chaque parole qu'il prononce, il s'identifie à toute l'humanité. Si nous étions d'origine américaine, nous penserions à lui comme étant un Américain. Si nous étions d'origine anglaise, comme étant un Anglais. Tout comme un Russe pourrait penser à lui comme étant un Russe. L'Évangile du Fils de Dieu ne s'identifie pas à une seule nationalité, mais à toute l'humanité. Voilà pourquoi il a pu dire « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Et ce passage, il est important parce que quand il dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc, si on peut relire le verset, on peut dire le Fils de l'homme est venu chercher et sauver toute l'humanité qui était perdue. Une autre chose que nous découvrons dans l'Évangile, c'est que Jésus ne se limite pas par son message à une certaine classe de gens, ni à ceux qui ont fait du mal dans la vie, son message s'adresse à tous ceux qui veulent bien entendre et l'accepter. Par exemple, il est écrit au chapitre 4 de l'Évangile de Jean que lorsque Jésus est arrivé dans une localité de Samarie, c'est-à-dire la ville de Sichar, il s'est assis au bord d'un puits fatigué de son voyage. Une Samaritaine vint pour puiser de l'eau et Jésus lui demanda à boire. Et voyant qu'il était juif, eh bien, la femme lui demanda comment il pouvait oser lui demander à boire à elle qui était samaritaine, car les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Pour eux, pour les Juifs, les Samaritains, c'était des faux Juifs. Il est écrit au verset 27 que lorsque les disciples revinrent de la ville où ils avaient été achetés de la nourriture, ils furent étonnés de voir Jésus parler avec cette femme. Et dans la culture de cette époque, il était impensable de voir un maître, un rabbin ou un enseignant s'abaisser à parler avec une femme. Mais voilà, non seulement dans sa bienveillance infinie, le Seigneur Jésus devenait un homme, mais en tant que tel, il voulait parler à tout le monde. Et il a parlé à une femme, et pas n'importe laquelle. Il a choisi une femme qui avait eu une vie assez tumultueuse lorsque l'on pense qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle habitait, c'était pas son mari. En fait, elle était en concubinage avec un homme. Je la comprends qu'après 5 échecs, elle devait en avoir ras-le-bol du mariage, mais derrière tout ça, ça nous montre finalement la soif d'amour que cette femme-là recherchait. Notre monde a tellement soif d'amour, frères et sœurs, parce que Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. Et cette femme-là, elle a cru trouver l'amour auprès des hommes, comme il y a des femmes qui pensent, cette femme a cru trouver l'amour auprès des hommes, comme il y a des hommes qui croient, qui pensent trouver l'amour auprès des hommes, et auprès des femmes, pardon. Aujourd'hui, je peux le dire, quoi, mais... Oui. Alors, auprès des hommes et des femmes, et qui finalement, eh bien, souvent ça se termine par des constats d'échec. C'est pour vous montrer que jusqu'à quel point que ces hommes et ces femmes ont une soif d'amour, et on a tous besoin d'être aimés, et d'aimer et d'être aimés. Pardon. Cela démontre que le Seigneur Jésus a voulu exprimer sa sympathie à tous les êtres humains, à tous les peuples vivant sur la terre, peu importe ce que nous avons fait. C'est ça qui est extraordinaire. Quand Jésus a rencontré cette femme au bord du puits, il ne lui a pas reproché d'avoir été marié 5 fois. Il ne lui a pas reproché, il ne l'a pas assommé en lui disant « t'es donc bien nul, quoi. Tu n'es pas capable de te prendre en main, tu n'es pas capable de faire des bons choix. » Il n'a pas dit ça. Le Seigneur Jésus ne regardait pas ce qu'elle avait fait à ses échecs. Il regardait à ce qu'elle avait besoin désespérément. Et ce besoin, c'était d'être aimée. D'être aimée non pas pour ce qu'elle pouvait apporter à un homme, mais d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Un être humain créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Jésus va prendre un temps avec elle. Et quand elle va quitter Jésus, cette présence, ce temps qu'elle a repris avec Jésus l'aura tellement marqué qu'elle va courir dans sa ville pour annoncer qu'elle avait rencontré celui que les prophètes annonçaient depuis le début, le Messie. C'est-à-dire le Messie, qu'est-ce que c'est le Messie? C'est Dieu qui se fait homme, qui vient sur la terre, habité parmi les hommes, pour leur partager un message d'espoir extraordinaire. Un message d'espoir extraordinaire. Et on va en parler un petit peu à travers ce passage aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons dire que lorsque Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés, que nos péchés soient pardonnés, il s'est sacrifié pour tous les hommes. Il ne s'est pas sacrifié pour les bonnes personnes, il s'est sacrifié pour tous les hommes. Les bons comme les moins bons, les pires comme les moins pires. Jésus-Christ ne fait pas de catégorie de classe. Lorsqu'il a choisi ses 12 disciples, il a choisi dans le groupe un collecteur d'impôts nommé Matthieu. Il a vu dans cet homme, à travers les petites notes qu'il prenait, à travers les registres qu'il en tenait et dans les impôts qu'il recueillait, il a vu en lui un futur écrivain de l'Évangile. Lorsque nous lisons le sermon sur la montagne prononcé par le Seigneur Jésus, les paroles ont été soigneusement recopiées par Matthieu, un collecteur d'impôts, détesté et méprisé par la population juive. Et cette histoire de Jachée que nous avons lue dans l'Évangile de Luc, n'en est pas moins une illustration de la grande compassion que notre Seigneur manifeste à l'égard des gens partout où il passait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le mépris que la population manifestait à l'égard d'un collecteur d'impôts. Premièrement, à cause de la nature même de l'emploi, qui encouragerait le collecteur d'impôts à pratiquer le vol, la fraude et même l'extorsion. La façon dont les Romains avaient établi les choses à cette époque, eh bien, était celle-ci. Ils offraient, tu n'avais pas besoin d'un diplôme d'université pour devenir collecteur d'impôts, tu avais juste à offrir le plus de profit possible aux Romains. Alors, le Romain disait, bien, s'il disait, écoute, il va collecter 10% des impôts cette année, eh bien, le collecteur d'impôts, il allait, il faisait toutes les portes, et lui, s'il décidait d'en collecter 15, il mettait 5% dans ses poches. Et il en donnait 10% aux Romains. C'est ainsi que l'homme qui percevait les impôts était redevable. Alors, il était redevable au gouvernement romain de tout ce qu'il percevait. Le reste qu'il pouvait percevoir lui revenait de droit. Et les collecteurs d'impôts étaient des gens méchants, des gens qui n'avaient pas de cœur, des gens qui étaient malhonnêtes. Ils formaient un groupe qui extorquait les gens. En Israël, ils étaient doublement méprisés parce qu'un collecteur d'impôts juif à la solde des Romains venait rappeler au peuple de Dieu, c'est-à-dire à la descendance d'Abraham, que le joug de leur servitude était sur eux jour et nuit et qu'ils étaient les esclaves de César. Il est difficile pour nous de réaliser jusqu'à quel point les Israélites méprisaient et haïssaient les percepteurs d'impôts travaillant à la solde des Romains. Pouvez-vous imaginer maintenant le Seigneur Jésus passant dans la ville de Jéricho et demandant à être reçu dans la maison de l'un de ces collecteurs d'impôts méprisés et détestés? On comprend pourquoi la foule ici va réagir. Comment est-ce possible, si lui, il est vraiment Dieu, s'il est vraiment le Fils de l'homme, comment est-il possible qu'il aille dans la maison d'un collecteur d'impôts, ce fourbe, ce voleur, ce bandit, cette rapace? Mais voilà, c'est le Seigneur, et cela est très typique de lui. Il s'est identifié avec les besoins de tous les hommes partout où il est passé. Avez-vous déjà remarqué l'histoire inhabituelle qui suit immédiatement à la fin du sermon sur la montagne? Pour ceux qui ont leur Bible tournée, dans Matthieu chapitre 8. On sait que le sermon sur la montagne, ça couvre les chapitres 5, 6 et 7. Et regardez les premiers versets du chapitre 8. Le huitième chapitre commence comme ceci. Jésus descendit de la montagne et de grandes foules le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et lui dit, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé comment ce lépreux est arrivé jusqu'à Jésus? Avez-vous déjà pensé à cela en lisant les Écritures? Quand le Seigneur est descendu de la montagne, les foules et les multitudes le pressaient de tous côtés, des milliers de personnes le suivaient. Et ce méprisant et dégoûtant lébreux, qui était en état de décomposition, qui vivait parmi les tombeaux, dans les endroits sauvages, entre les fentes des rochers et dans les grottes, est apparu en marchant comme il le pouvait directement vers Jésus. Il avait probablement le corps couvert d'ulcères et des traces de mutilations que l'on voit souvent chez les personnes affectées par la lèpre. Ces marques étaient causées parce que les nerfs sont endommagés, qu'il en résultait une complète insensibilité. On dit même qu'il y a des lépreux qui se grattent et qui ne sentent tellement rien qu'il y a des morceaux de chair qui leur tombent par terre et qui leur tombaient par terre. Le malade, n'ayant plus de sensation dans les mains, se blesse et se brûle facilement, et les lésions qu'il provoque chez lui, causent des infections, mais vu le manque de sensibilité à la douleur, il ne le ressent pas, donc il ne prend pas ça vraiment au sérieux. Et l'infection peut alors se développer sans encombre et conduire jusqu'à l'amputation d'un membre. Avez-vous déjà pensé comment il a pu arriver jusqu'à Jésus, dans l'état dans lequel il était? C'est un homme qui devait se traîner, mais il y a pire que ça. Parce que pour protéger les gens, la loi avait prévu quelque chose. Imaginez que partout où ce lébreux marchait, peu importe où il allait, il devait porter des vêtements déchirés, avoir la tête nue, se couvrir la barbe et crier « Impur, 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 je suis impur » pour avertir les gens que c'était un lépreux. Et partout où il marchait, il y avait un cercle effrayant et élargi autour de lui qui reculait, de personnes qui reculaient quand on voyait ce lépreux arriver. Et quand il pénétrait à l'intérieur de la foule, les gens criaient « un lépreux » pour avertir les gens que c'était quelqu'un qui était infecté de la tête aux pieds. Et pourtant, ce lépreux, dans cette histoire, va continuer à marcher et pour s'approcher jusqu'à Jésus, et c'est ainsi qu'il va se retrouver à ses pieds. Juste le fait de toucher à Jésus, selon la loi, il rendait Jésus impur. Mais Jésus n'a pas rien dit là-dessus. Il ne lui a pas dit, écoute, tu te prends pour qui de tâcher le maître que je suis? Jésus ne se prenait pas pour un autre. Jésus avait une compassion. Jésus avait une sympathie pour les gens. Encore aujourd'hui, il est vivant, il a une sympathie pour vous, il a une sympathie pour moi, il a une compassion pour vous, il a une compassion pour moi. Moi, je vous regarde le visage, vous avez des visages, la plupart, c'est des visages neutres. Moi, je ne suis pas capable de lire dans votre cœur cet après-midi. Mais Jésus est capable de lire dans votre cœur. Jésus sait ce dont vous avez besoin cet après-midi. Jésus connaît vos besoins spirituels, il connaît vos besoins physiques, il connaît vos besoins matériels. Et je peux vous dire une chose, comme il a répondu à mes besoins il y a 35 ans, il est capable de répondre à votre besoin aussi aujourd'hui. Comme il va le faire pour Zachée, comme il l'a fait aussi, comme il va le faire ici pour ce lépreux. Il s'agit juste de lui partager, il s'agit juste de lui ouvrir son cœur, comme le chant nous a dit, « Ne fermons pas notre cœur, n'endurcissons pas notre cœur, Ne lui fermons pas notre cœur et le Seigneur est capable d'accomplir un miracle dans votre vie. Je ne sais pas si vous croyez au miracle. Moi, il a fait un miracle dans ma vie, 2-3 miracles dans ma vie. Et je le loue pour cela. Et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. J'ouvre une petite parenthèse ici. Il y a 12 ans, il y a 11 ans maintenant, j'ai été atteint d'un cancer qui était incurable. Aucune opération possible. On me donnait 6 mois à vivre. Et aujourd'hui, après 11 ans, eh bien, je suis toujours vivant parce que le Seigneur m'a guéri. Et Dieu est capable de vous guérir aujourd'hui. Ça peut être psychologiquement, ça peut être moralement, ça peut être physiquement. Dieu est encore capable de guérir. Et à travers ça, eh bien, il veut se glorifier. Il veut montrer qu'il est puissant. Il veut montrer qu'il nous aime. Alors, il le fait. Il est capable de continuer à le faire. Vous êtes-vous demandé pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas repoussé ses lépreux? Pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas fui comme les autres? Matthieu écrit que les lépreux s'est approché jusqu'à Jésus. Et si la foule s'est éloignée de ce lépreux en le voyant, le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit, ne l'a pas fait. Ce que ce lépreux a demandé au Seigneur nous encourage, nous aussi, à faire de même. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur va alors faire quelque chose. Il est écrit que le Seigneur étendit la main et le toucha. Vous imaginez, il a touché un lépreux. Et selon la loi, ça le rendait impur. Pourquoi, j'imagine, j'essaye de voir et d'entendre cette grande foule retenir son souffle lorsque le Seigneur va toucher ce malade et repoussant, traînant son corps en état de décomposition. Pourquoi? Chers amis, c'est déjà la moitié du remède dont il avait besoin. Ce lépreux avait oublié à quoi ressemblait la chaleur d'une main humaine. Depuis qu'il était malade, personne ne lui avait touché. Quand on y passait, tous les gens se détournaient son regard de lui. Quand il passait tout près des gens, les gens couraient pour le fuir. Il était isolé. Il était seul dans son monde. Il devait avoir non pas juste une souffrance physique, mais quelle souffrance intérieure il avait. Je dis, Dieu nous a créés pour être aimés et aimés. Et son plus grand désir, c'était d'être aimé. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur, Seigneur, afin que j'aie l'air à nouveau d'un être humain, afin que je puisse vivre avec mes semblables, afin que je puisse encore me sentir aimé, être capable d'aimer les autres sans être rejeté. Et le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire, il va étendre la main, il va le toucher. Chers amis, c'était, comme je l'ai dit, c'était déjà la moitié du remède dont il avait besoin. Jésus dit, je le veux, sois pur. Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre, nous dit le texte biblique. Voilà, c'est notre Seigneur. Qu'il s'agisse d'un collecteur d'impôts, corrompu et méprisé, qu'il s'agisse d'un pauvre lépreux répugnant et repoussant, ou la Samaritaine ayant vécu une vie assez tumultueuse, ils sont tous égaux aux yeux du Seigneur Jésus, et ils les aiment tous de la même façon, peu importe ce qu'ils ont pu faire dans la vie, parce que Jésus est l'ami des pécheurs. De quelle façon devons-nous faire face au péché? Quelle devrait être notre attitude et comment devons-nous réagir face au péché? Eh bien, il y a trois façons de réagir. La première façon, c'est celle d'exercer une grande sévérité à l'égard du pécheur. Et Dieu aurait pu le faire. Jésus aurait pu le faire. Dire, écoute, moi je suis juste, toi tu es un pécheur, tu désobéis à la loi de Dieu, moi je ne veux pas avoir de contact avec toi, mais absolument pas. Jésus n'est pas venu pour rappeler aux gens, écoutez, votre contact est coupé avec Dieu, c'est terminé, il n'y a pas d'espérance pour vous. Il est venu leur dire, écoutez, votre contact est coupé avec Dieu à cause du péché. Maintenant, je viens ici pour rétablir ce contact avec Dieu. Et il a réagi de la bonne façon. Il y en a qui réagissent par rapport à des gens qui ont fait des choses. Ils sont incapables de leur pardonner. Ils sont toujours en train de les juger. C'est des gens qui sont durs. Ils sont toujours animés d'un esprit de jugement, comme les pharisiens. Ils ne veulent pas avoir de contact avec ceux qui font le mal. Alors que Jésus a dit que ce n'est pas nécessairement dans ce qu'on fait qui est seulement péché. Il dit, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre l'adultère, à tuer, à voler, à dire du mal des autres, et ainsi de suite. Si on pouvait être capable de lire ce que les gens pensent de nous dans leur tête, et qu'ils n'osent pas dire, on serait surpris. Si on devait afficher sur cet écran tout ce qu'on a pensé durant la semaine des uns et des autres, on serait peut-être gêné. On se sauverait peut-être tout de suite. Je serais peut-être tout seul, hein? Je serais peut-être tout seul à rester en avant et je serais content que vous soyez tous partis pour voir ce que moi j'ai pensé durant la semaine tout seul, quoi. Jésus a dit, car c'est du cœur de l'homme, du dedans du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à dire du mal des autres, à calomnier, à médire, à envier ce que les autres ont. Et Jésus n'est pas venu pour ça. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Et on a besoin de ce salut, on a besoin de rétablir notre communion avec Dieu. On a besoin de faire en sorte que Dieu puisse remplir notre cœur vide de son amour. Dans Jean chapitre 8, versets 3 à 5, on rencontre une autre femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et c'est en plein jour. Et le but, on amène cette femme à Jésus-Christ, et le but, c'est pas que Jésus... le but, en fait, c'est la loi prévoyait que cette femme, elle devait être lapidée. Et on va vouloir piéger Jésus, on va amener cette femme auprès de Jésus pour voir ce qu'il ferait. Et c'est, moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça extraordinaire, la réponse de Jésus, parce qu'il n'a pas ouvert la bouche. Oui, il a ouvert la bouche, mais il écrivait dans le sable en attendant. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte biblique nous dit que Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer une telle femme à coups de pierre. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Et Jésus a dit une chose extraordinaire, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et le texte continue en nous disant qu'à partir des plus vieux jusqu'aux plus jeunes, ils ont tous quitté. Et en fait, le seul qui pouvait lancer une pierre à cette femme qui pouvait la lapider, qui était sans péché, c'était Jésus. Et Jésus n'était pas là pour la juger, n'était pas là pour la condamner. Jésus était là pour lui rappeler que Dieu pouvait lui pardonner ce qu'elle vivait. Et il lui a simplement demandé, où sont tous ceux qui t'accusaient? Il n'y avait plus personne. Et Jésus dit, va, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et Jésus est là pour nous libérer du mal qui nous anime en nous. La Bible dit qu'on n'est pas habitué à entendre parler, à entendre ce langage-là aujourd'hui dans notre société, parce que la notion du péché n'existe plus. Le bien et le mal, c'est tout le monde qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Mais Dieu, ce qui est réconfortant pour nous, ce qui est sécurisant pour nous, c'est que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ce que Dieu trouvait mal il y a 2000 ans, eh bien, c'est encore mal aujourd'hui. Ce que Dieu trouve bien il y a 2000 ans, eh bien, c'est encore bien aujourd'hui. Dieu ne change pas. Et en cela, eh bien, Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment nous libérer du péché qui habite en nous, afin que nous puissions aimer les gens, non pas pour ce qu'ils peuvent nous donner, mais aimer les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Je pense que ça, c'est vraiment important. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont frustrés, que ce soit en couple, que ce soit ailleurs au travail, qui découvrent qu'ils sont appréciés à cause de ce qu'elles ont et non pas à cause de ce qu'elles sont. Et Jésus ne nous aime pas en fonction des biens qu'on a. Il n'y a personne qui va rentrer au paradis en fonction des biens qu'ils ont, mais c'est en fonction de ce que nous sommes. Nous sommes des créatures qui avons été créées à l'image de Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous rétablir dans notre désobéissance, il veut nous rétablir dans cette image qu'on a perdue au début de la création. Et c'est quelque chose de fantastique. La deuxième façon de pouvoir réagir, frères et sœurs, c'est ceux qui regardent le péché sans ressentir ni être persuadés de sa gravité, et qui se montrent laxistes, voire même comme certaines personnes libérales. On a des exemples dans la Bible, mais bon, je n'ai pas le temps de parler de tous ces exemples-là. Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui est un peu comme ça, qui subit les conséquences aussi, qui subit les conséquences de certaines décisions que les gens ont prises et qui les amène finalement tout près de la mort. Et il y existe une troisième attitude, et c'est celle de l'Esprit, et c'est celle de Jésus-Christ. Il n'a jamais abaissé les normes établies par Dieu, jamais. Il a demandé à ceux qui lui appartiennent, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et on sait ce que ça veut dire, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça résume toute la loi. C'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et votre prochain comme vous-même. Et Jésus a dit, ça résume toute la loi. Frères et sœurs, il n'y a pas de code moral, ni un code d'éthique sur cette terre comparable au sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, les versets 1, et chapitre verset 5, 1 à 7, et le verset 29. Il n'y a pas de code moral, ni de code d'éthique aussi dur en apparence, aussi dur à respecter que celui-là. Et pourtant, c'est blanc, c'est pur comme la neige qui tombe sur les plus hautes montagnes du monde, et pourtant le Seigneur ne faisait qu'un avec les prostituées, il ne faisait qu'un avec les voleurs, il ne faisait qu'un avec les parias, qui aimaient venir l'entendre et qui s'approchaient de lui. Et pourtant, ce sont les gens qui auraient été le plus offusqués. Quand vous lisez le sermon sur la montagne, c'est... Vous vous dites, je vais vous en lire deux, trois. Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui crient la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, dit Jésus, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Frères et sœurs, il y a des prostituées, des voleurs, des collecteurs d'impôts, des meurtriers qui entendaient ces paroles de Jésus. Il n'était pas capable d'attirer les bonnes personnes, mais tous les pourris de la terre venaient vers Jésus pour entendre ses paroles et ils buvaient ses paroles. Pourquoi? Parce que les bonnes personnes, elles se sentent tellement bonnes qu'elles n'ont pas besoin d'un sauveur, qu'elles n'ont pas besoin de personne. Quand on entend les paroles de Jésus, pour eux, c'est qu'on leur fait la morale. Elles ne veulent rien savoir de la morale. Elles n'ont pas de leçons à apprendre de personne. Mais celui qui est déprimé, celui qui est abandonné, celui qui a été délaissé, celui qui n'a jamais eu la chance de vivre dans une famille normale, celui ou celle qui a été victime d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus moraux, qui entend ce message, eh bien, pour elle, c'est la porte de sortie. C'est ce qu'elle a recherché toute sa vie. Je suis une personne estropiée. Je suis une personne qui est blessée par la vie. Et ce message, eh bien, il me guérit. Je sais qu'il est capable de me guérir. Parce que ce n'est pas les hommes, ce message ne vient pas des hommes, ce message vient de Dieu et il passe à travers la personne de Jésus-Christ. Les médicaments font simplement assommer les gens. La boisson fait simplement oublier aux gens leurs problèmes. Mais quand les gens reviennent de leur beuverie, eh bien, les problèmes refont surface aussi. Les gens se bourrent de médicaments aujourd'hui. Les Belges sont parmi les champions consommateurs de médicaments, de tranquillisants dans toute l'Europe. Pourtant, on est dans un pays où on ne ressent pas trop la crise. Mais il y a ce sentiment de solitude et de vide à l'intérieur de chaque être humain. Et on essaie de compenser par toutes sortes de choses. Voilà pourquoi les pharisiens, ceux qui étaient très légalistes, ceux qui étaient toujours en train de juger, regardaient Jésus et disaient entre eux, « Regardez-le, comment il s'entend bien avec les voleurs, et comment il s'entend bien avec les pécheurs. » Bien, s'il s'entend bien avec eux, c'est qu'il doit être pareil comme eux. Mais voilà, avec toute la pureté, la simplicité de son message et l'énorme élevé de sa prédication, il voyait non seulement les pécheurs insister pour l'entendre parler, mais les foules s'entassaient autour de lui. Cela ne le dérangeait pas d'avoir la réputation d'être l'ami des collecteurs des impôts et des autres gens de mauvaise réputation. Pourtant, ce qui est remarquable, ce qui est inhabituel, ce qui est béni, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a des invités dans cette salle aujourd'hui. Il y a des gens qui on voit régulièrement, qui viennent presque à tous les dimanches. J'aimerais simplement vous poser une question. Cette croix, qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui? Pour moi, dans la religion que je pratiquais, ça pouvait être quelque chose de décoratif que je mettais dans une chaîne et que je portais autour de mon cou. Cette croix, quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans puis j'ai commencé à rentrer dans le monde, ça ne voulait plus rien dire. Maintenant, celui qui était sur cette croix, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est seulement un nom ou si c'est une réalité dans votre vie? Parce que si c'est une réalité dans votre vie, ça veut dire que vous croyez qu'il est vivant, vous croyez qu'il a vaincu la mort, et vous croyez qu'encore aujourd'hui, il est capable de faire une œuvre dans votre cœur, de changer votre vie, et de vous donner cette paix et cette joie que tous les êtres humains recherchent tant. Jésus n'est pas venu exercer un ministère auprès de ceux qui ont dit qu'il pouvait voir, mais il est venu exercer un ministère auprès des aveugles. Il n'est pas venu exercer un ministère auprès de ceux qui ont dit « Nous allons bien ». Il est venu en tant que médecin bien-aimé pour soigner ceux qui étaient malades. Et il n'est jamais venu pour sauver ceux qui sont justes. Mais il est venu pour sauver ceux qui reconnaissent et confessent qu'ils sont pécheurs. Le mot « pécheur », c'est un gros mot aujourd'hui dans notre vocabulaire. mais ça veut simplement dire une personne qui a désobéi à la loi de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Et la Bible, elle est claire. Quiconque a désobéi à la loi de Dieu est privé d'entrer au paradis. Et Dieu, en Jésus-Christ, eh bien, nous a donné la solution pour pouvoir avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons rentrer au paradis. Et ce n'est pas en pratiquant une religion. Les œuvres n'ont rien à voir là-dedans. Il n'y a aucune bonne œuvre, aucune bonne action que nous pouvons faire qui peut effacer un seul de nos péchés. L'œuvre qui peut effacer tous vos péchés d'un seul coup, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Lui qui était sans péché, la Bible nous dit qu'il a pris sur lui tous vos péchés. Et en retour, eh bien, Dieu vous donne sa justice. Et à partir de là, vos péchés sont effacés. Et Dieu ne vous ramènera jamais vos péchés. Dieu dit, je les oublie vos péchés, je les oublie. Et vous devenez un enfant de Dieu. Pas en fonction d'un sacrement, en fonction de ce que Christ a accompli sur la croix pour vous. Jésus a dit, tu n'as plus rien à faire, tout est accompli. Ah, mais c'est facile ça, si je n'ai plus rien à faire. Ça ne se peut pas, je n'ai rien à faire, moi. Vous savez, on est dans le cœur de l'homme, il sommeille un religieux. On veut toujours faire quelque chose pour plaire à un autre. Mais Jésus a dit, tout est accompli, tu n'as rien à faire. Prends d'abord cette décision de croire que ce que je fais sur la croix, c'est pour toi. Pas pour moi, je n'en avais pas besoin. Je le fais pour toi parce que je t'aime. Et que le but, c'est que Dieu ne te voit plus comme étant un pécheur, mais que Dieu te voit comme un enfant de Dieu, comme une personne qui a accepté le seul moyen par lequel il peut voir ses péchés être pardonnés et recevoir la vie éternelle. Et à partir de là, il y a une nouvelle vie qui va commencer avec toi, avec moi. Et moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 35 ans. La seule chose que je regrette, j'ai 70 ans bientôt, la seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû connaître le Seigneur avant 35 ans. Ça m'aurait évité de faire beaucoup de bêtises que j'ai regrettées et que je regrette encore aujourd'hui. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon parce qu'il n'était pas obligé de se révéler à nous. Il n'était pas obligé de venir sur la terre. Il aurait pu regarder, en regardant la terre, il aurait pu dire, « Moi, je ne descends pas sur cette grande poubelle qu'est la terre. Moi, je ne me salis pas avec des pécheurs. Moi, je reste en haut et je vais aller juger un par un. » Non. Par amour pour nous, nous dit la Bible, il est venu sur la terre. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est une réalité, chers amis qui m'entendez, c'est une réalité. La mort, ce n'est pas la fin de tout. On n'est pas au même niveau qu'un cheval, une vache et un chien. On a quelque chose de plus que les animaux. On a un esprit. Nous sommes animés d'un corps, c'est le body. Nous sommes animés d'une âme, c'est le siège des sentiments, de la personnalité, mais nous avons aussi un esprit. L'être humain est le seul sur la terre qui est animé, qui est équipé d'un esprit. Cet esprit, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Cet esprit, ça permet à l'homme d'entrer en communion, en contact avec le Dieu créateur. Frères et sœurs, chers amis, qui entendez peut-être le message de l'Évangile pour la première fois, il y a un beau verset dans la Bible qui nous dit que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et vous voulez savoir votre valeur aux yeux de Dieu? Il a accepté de sacrifier son propre fils pour des pécheurs, pour des gens qui désobéissent à sa loi. Ça, c'est la valeur qu'on représente aux yeux de Dieu. Ce n'est pas du cash, ce n'est pas avec une carte bancaire. Il a donné la vie de son fils pour qu'après la mort, nous puissions avoir cette espérance, cette certitude que lorsque nous allons comparaître devant lui, Dieu ne nous refusera pas de l'entrée au paradis, mais il va nous ouvrir les portes toutes grandes, non pas sur la base de ce que nous aurons fait, mais encore une fois sur la base de ce que Jésus aura fait sur la croix pour nous. C'est ça le message de la croix. C'est ça le message de la croix. Le plus difficile pour ceux qui entendent ce message-là, c'est de dire, écoute, j'ai vécu depuis un certain nombre d'années, j'ai vécu à ma façon, maintenant à partir d'aujourd'hui, j'aimerais prendre la décision de vivre comme Dieu demande que je vive. J'ai été le maître de ma vie, maintenant j'aimerais bien faire en sorte de remettre ma vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur Jésus, afin qu'il devienne le maître de ma vie. Ce qui est important pour moi, ce n'est plus de fonctionner en fonction de tout ce que j'aime, mais je veux vivre en fonction de ce que Dieu me demande de vivre. Et moi, je peux vous dire une chose, vous ne serez jamais, jamais déçus. Jamais déçus. Moi, je n'ai jamais été déçu, en tout cas. Dieu ne m'a jamais déçu. Et le salut, il est gratuit. Le salut, il est gratuit. Il a déjà été payé. Donc, vous n'avez pas à payer pour être sauvé. Et être sauvé, c'est un langage de l'Évangile qui veut simplement dire voir vos péchés être pardonnés. Voir vos péchés être pardonnés. Ouais. Le Seigneur aurait pu utiliser beaucoup de moyens et de méthodes pour sauver ceux qui étaient perdus. Par exemple, il aurait pu résumer des sermons qui parlent des pécheurs et les faire parvenir dans toutes les boîtes aux lettres en Belgique ou même sur Internet, comme nous le faisons aujourd'hui. Il aurait pu se placer au sommet de montagne et adresser des paroles aux gens. Et je suppose qu'il aurait pu, et je pense qu'il aurait pu faire encore beaucoup de choses à distance concernant le pécheur. Mais voilà, il est venu dans une ville, il est descendu sur la terre, il est venu dans la ville, entre autres, de Jéricho, où habitait le pécheur. Et là, il a rencontré Zachée, qui était grimpé dans un arbre. Il faut le faire, un cahier de la peine qui est grimpé dans un arbre. Il faut le faire, hein? Ouais. Il y avait tout un besoin, Zachée, hein? C'était pas juste par curiosité que Zachée était monté dans un arbre. Risqué de faire rire de lui par la population qui le détestait, qui le méprisait. Zachée avait faim, lui aussi. Il avait faim et soif de connaître la vérité. Il avait soif et faim de rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'était la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, il a levé les yeux, il a appelé ce pécheur par son nom. Avez-vous déjà pensé comment il connaissait son nom? Comment Jésus connaissait son nom? Il a parlé Zachée à Zachée comme s'il le connaissait depuis toujours. Et pourtant, Zachée ne l'avait jamais vu auparavant. Et Jésus n'avait jamais vu Zachée avant ce jour-là. Et cet homme de petite taille a couru en avant de Jésus où il devait passer pour grimper sur un arbre, un sycomore, afin de pouvoir baisser les yeux juste pour voir à quoi ressemblait Jésus. Mais quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et il l'appela par son nom, comme s'il avait connu toute sa vie en lui disant, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et je pense qu'il aurait pu lui dire, « Écoute, Zachée, moi je suis en route pour Jérusalem et je ne passerai plus jamais dans la ville de Jéricho. Je suis en route pour le monde et du calvaire. C'est à cet endroit que je vais offrir ma vie en sacrifice pour toi. Alors, Zachée, descends, dépêche-toi, descends, je veux passer la nuit chez toi. » C'était la façon de faire de Jésus avec un pécheur, étendre la main, frapper à sa porte, rompre du pain à sa table et prononcer des paroles qui l'interpelleraient, et ce avec amour et affection. Jamais il a cherché à démontrer sa grande connaissance. Jamais il a parlé de façon abstraite. Jamais il est tombé dans le piège de raisonner avec les hommes. Et jamais il a voulu donner un cours de théologie au pécheur qui se trouvait devant lui. Le message de Jésus, il était simple. Zachée, il l'a entendu, lui dire, « Mon ami Zachée, je dois m'arrêter chez toi aujourd'hui dans ta maison. Je veux passer un moment avec toi, Zachée. » Est-ce que le message de Jésus ressemble à ce que nous entendons dans nos églises aujourd'hui? Rappelez-vous l'image qu'il utilise dans Apocalypse, chapitre 3, 20. Écoute, il s'adresse à chacun de nous. Écoute, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Quel beau verset. C'est une belle image de notre cœur. Hein? Ouvre la porte de ton cœur. Oui, mais Jésus, tu dois l'ouvrir, la porte. Non, la poignée est à l'intérieur de ton cœur. Moi, je n'ouvrirai pas la porte. Et l'amour ne force pas une personne à faire le contraire de ce qu'elle voudrait faire ou à décider quelque chose qu'elle ne voudrait pas prendre comme décision. Jésus nous fait tout simplement nous donner le message. Voici le message. Je me tiens à la porte de ton cœur cet après-midi, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. La Bible nous dit que quand nous faisons ce pas de foi, c'est-à-dire de nous en remettre vraiment à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et à travers la résurrection et la vie éternelle, eh bien son esprit vient habiter en nous et nous ne sommes plus jamais seuls. Ce vide, la Bible dit, c'était Pascal qui disait ça, l'homme un vide de Dieu dans son cœur. Et c'est vrai qu'on a un vide de Dieu dans notre cœur. Vous pensez que les gens de notre génération ont abandonné la religion? Ils n'ont pas abandonné la religion. Détrompez-vous. Ils ont simplement déplacé leur lieu de rencontre. Mais les gens ont besoin de quelque chose pour être excités. Les gens ont besoin de quelque chose pour dire « ma vie a du sens ». Et vous savez c'est quoi la religion aujourd'hui? C'est le sport. Regardez les stades. Les statues aujourd'hui, elles bougent. Elles sont au milieu. Elles bougent. Et les gens font la vague. Ils adorent leurs idoles. Ils ont simplement changé de religion, simplement changé leur façon de pratiquer la religion. C'est rempli les dimanches. On pense que c'est vide les églises, mais c'est rempli les stades le dimanche. Hein? Cette nouvelle sorte d'église. On tape des mains, on applaudit. Mais les gens se sont trouvés d'autres idoles qui correspondent au temps et à l'époque dans laquelle on vit. Mais les gens sont religieux puisque nous sommes tous foncièrement religieux à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des gens qui trouvent ça difficile, qui trouvent ça outrageux de voir qu'on fait une offrande dans une église et que les gens peuvent donner des pièces de monnaie. Ils sont surpris qu'on fasse une offrande. Mais dans la nouvelle religion que les gens pratiquent, il y en a qui sont prêts à donner des centaines de billets, d'euros. Et ça, ça ne les dérange pas. Souvent, c'est même pas assez. Ils ne veulent pas être dans le jubé en haut. Ils veulent être juste au bord de la piste. Et là, les billets, ça peut être le 1 000 euros, ça peut être le 2 000 euros. C'est jamais trop cher. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Frères et sœurs, c'est jamais trop cher pour quelque chose qu'on aime. Jamais trop cher. Jamais trop cher. Jésus termine cette rencontre avec Zachée en disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est comme si Jésus disait à tous ceux qui étaient présents dans cette maison ce jour-là et à quiconque entendrait ces paroles, « Ce qui est arrivé à Zachée peut vous arriver aussi à vous aujourd'hui. » Et c'est encore vrai aujourd'hui. Si votre vie manque de sens, si vous avez perdu espoir, si tout ce que vous avez essayé vous a laissé abattu, découragé, désillusionné et en quête de plus, alors Jésus est la réponse pour vous. Jésus est la réponse de Dieu pour vous. Vous n'avez pas besoin de grimper un arbre pour le rencontrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à son appel et de venir à lui maintenant. Si vous le faites et si vous le recevez, il sauvera votre âme, il pardonnera vos péchés. Est-ce que vous êtes sauvé aujourd'hui? Est-ce que vous désirez être sauvé aujourd'hui? Alors faites ce que l'Évangile dit, faites ce que Jésus dit. Même si vous êtes sauvé, que vous vivez en dehors de la volonté de Dieu, venez à lui, vous aussi. Si vous voulez seulement vous incliner à ses pieds et dire « Merci d'avoir arrêté où j'étais ce jour-là, Jésus. Merci d'avoir permis que je sois venu ici aujourd'hui, d'avoir entendu parler de toi, Seigneur. C'est peut-être la première et la dernière fois que je vais entendre parler de toi. Mais merci. Merci, Seigneur, parce qu'au moins, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es une réalité. Et je sais que tu veux que je passe l'éternité avec toi dans ton paradis. » Zachée a répondu à l'appel du Seigneur. « Le voulez-vous aussi? » Je vais vous inviter à vous lever.